Si vous voulez vous tourner dans la lettre aux Hébreux, encore, on va commencer en priant. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ta parole, merci encore une fois pour cette lettre aux Hébreux, pour tout ce que tu as à nous dire à travers cette lettre. Aide-nous à recevoir encore ce matin de cette lettre. Et Seigneur, à répondre à ta parole comme tu le souhaites, Seigneur, en l'intégrant dans nos vies et en y obéissant, ce qu'elle devienne partie intégrante de nos vies, Seigneur. Nous te remettons l'étude ce matin et notre temps ensemble, notre temps de communion fraternelle après aussi, Seigneur, que tu sois présent et que tu te sentes à l'aise, Seigneur, et chez toi, ici, parmi nous, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos paroles, dans nos relations les uns avec les autres et notre relation avec toi, Seigneur. Sois glorifié ce matin, en ton nom nous prions. Amen. Alors, pour ceux qui ont pas, je pense que ce serait bon d'avoir une Bible pour pouvoir sauter entre les passages. La semaine dernière, on a terminé l'étude à proprement parler de la lettre. On est arrivé à la fin de la lettre. Et cette semaine, on va faire un survol de toute la lettre et on va regarder brièvement les 5 passages qui sont considérés comme des avertissements qui viennent interrompre la trame générale de la lettre. Alors, je vais commencer avec encore des rappels sur le livre. On pourrait dire que la lettre aux Hébreux, c'est une défense ou un argumentaire pour dire que Jésus est le meilleur. C'est lui le meilleur. C'est la meilleure chose à plein de niveaux. Et l'auteur prend 13 chapitres pour dire pourquoi Jésus est le meilleur. Et il écrit aux croyants juifs qui subissaient la persécution dans l'Empire romain et qui étaient tentés de revenir à la religion juive pour éviter cette persécution. Et dans la lettre, on voit que leur foi était devenue faible, qu'ils se retrouvaient peut-être moins souvent à l'église, moins souvent ensemble, et qu'ils étaient devenus faibles spirituellement, alors qu'ils auraient dû devenir suffisamment mûrs pour pouvoir enseigner aux autres. Et on voit qu'il y a sans doute même beaucoup d'entre eux qui étaient déjà retournés à la religion juive, qui avaient en quelque sorte un petit peu renié leur foi chrétienne ou qui étaient un petit peu « non, moi je suis juif d'abord », mais qui n'étaient pas pleinement, qui n'assumaient pas pleinement leur foi. Et la lettre aux Hébreux, c'est le grand, dans le Nouveau Testament, c'est le grand traité théologique, on pourrait dire, sur la foi. C'est la foi à plein de niveaux. Et donc le livre veut défendre que Jésus est le meilleur et il nous présente Jésus comme un accomplissement, comme l'aboutissement de l'ancienne alliance et même comme le dépassement de cette ancienne alliance, comme quelque chose de meilleur. Il est supérieur, il est meilleur que tout ce qu'il y avait dans l'ancienne alliance. Et évidemment, parce qu'il parle aux Juifs, il y a un intérêt, il leur dit « toute votre religion juive, Jésus l'a dépassée, Jésus est mieux que tout ça ». Et la lettre aux Hébreux, quand vous la lisez, si vous faites attention, si vous êtes en train de l'étudier ou si vous voulez un petit peu passer plus de temps dedans, vous, c'est une lettre dans laquelle il est très important de remarquer les contrastes. Si vous faites une étude de la lettre par vous-même, c'est bon de regarder les moments où il va comparer. Il va dire, dans l'ancienne alliance, il y avait ça, mais nous, maintenant, il y a ça. Et il va faire le contraste entre les deux. Et on pourrait regarder, par exemple, il va comparer nos pères à nous, les croyants actuellement. Il va comparer les prophètes au Fils, à Jésus. Il va comparer les anges au Fils. Il va comparer Moïse à Jésus-Christ, il va comparer le repos dans le pays de Canaan au repos promis par Dieu avec le sacrifice de Jésus. Il va comparer Josué à Jésus-Christ. Il va comparer le grand prêtre Aaron au grand prêtre Jésus-Christ. Il va comparer les descendants de Lévi et la prêtrise des Lévites à un certain Melchisédek, les prêtres de l'ordre d'Aaron aux prêtres de l'ordre de Melchisédek. Il va parler d'une prêtrise qui est temporaire, comparée à la prêtrise de Jésus qui est permanente, qui est éternelle. Il va parler des sacrifices qui devaient être offerts quotidiennement à un sacrifice qui est offert une fois pour toutes. Il va parler de la première alliance et de la nouvelle alliance. Il va parler du sanctuaire terrestre qui était le tabernacle et il va parler du sanctuaire céleste, le ciel. Il va parler du sang des boucs et des agneaux comparé au sang de Jésus-Christ. Il va parler du sacrifice annuel du grand prêtre avec le sacrifice encore qui est offert une fois pour toutes par Jésus-Christ. Il va dire que la loi, c'est l'ombre des choses à venir, que c'est une représentation, alors que Jésus, c'est la réalité, la finalité. Il va parler du fait d'offrir des sacrifices pour faire à Dieu, et dans le Nouveau Testament, l'idée que c'est de faire la volonté de Dieu qui est ce qui lui plaît. Il va comparer ceux qui reviennent en arrière et dire « nous ne sommes pas de ceux-là, nous sommes de ceux qui croient ». Il va comparer ce qui peut être vu avec ce qui ne peut pas être vu, mais qui peut être cru. Il va comparer le mont Sinaï terrestre avec la montagne de Sion céleste. Il va comparer le sang d'Abel avec le sang versé de Jésus. Et comme ça, vous pouvez faire toute une étude, quasiment quand vous avez ça en tête et que vous relisez le livre, vous voyez ces contrastes sans arrêt, plein de versets où il va faire des comparaisons comme ça. Et si vous relisez, il y a aussi des mots avec cette idée de... Alors il y a les contrastes et l'idée que Jésus est meilleur. Et il va avoir des mots, le mot meilleur, le mot supérieur, les mots plus grands... L'idée de une fois pour toutes, quelque chose qui est fait une fois pour toutes et qui est final. Il va parler de la perfection, de ce qui est parfait. Il va parler du grand prêtre, Jésus, et il va avoir beaucoup d'utilisation de ce mot. Il va parler de la foi. Il va parler de l'idée de venir avec assurance, l'idée qu'on a une assurance et qu'on peut, être sûr de ce qu'on a parce que c'est Jésus qui l'a fait. Et il va utiliser beaucoup d'impératifs de la première personne du pluriel, où il va dire, alors, nous faisons ça, nous allons-y, nous, et si vous remarquez ce temps de verbe, il a ces impératifs où il va nous expliquer et nous dire ce qu'on doit faire, ou ce qu'on doit éviter, ou ce qu'on doit ne pas faire. Et ça, c'est très riche, on avait parlé la semaine dernière du fait qu'on avait en quelque sorte avec la Bible une grande chance d'avoir une bonne explication de ce qu'on peut faire dans la vie pour avoir une vie pleine et une bonne vie que Dieu nous donne. J'avais utilisé l'idée des normes du constructeur. On a ce qu'il y a. Dieu nous a créés et nous a donné les instructions pour savoir comment vivre pleinement et bien vivre. Et on peut regarder ces instructions et on peut bien vivre si on y obéit. Et donc de remarquer ces impératifs, ça fait partie de ces instructions sur comment bien vivre. Et on avait terminé avec l'idée que l'auteur, à la fin, dans le chapitre 13, disait « Faites bon accueil à ces paroles ». Et on avait parlé du fait que faire bon accueil à ces paroles, c'est y obéir, c'est les absorber dans nos vies, c'est les faire nôtres et vraiment les intégrer dans nos vies. Alors, on va regarder, j'ai hésité de vous relire tout le livre d'un trait, parce que c'est un bon exercice et parce qu'on se dit la lettre aux Hébreux, ça fait 13 chapitres et c'est monstrueusement long et on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Et au final, moi j'ai lu, je me suis dit je vais lire en me chronométrant encore une fois pour avoir un peu une idée. Et lire toute la lettre aux Hébreux, ça prend 40 minutes sans être super concentré, quoi. Donc je sais bien qu'entre nous, on n'hésite pas à se regarder un petit épisode de série télé et on a l'impression que ça passe très vite. Et après, si on nous demande de lire 3 chapitres de la Bible, on dit... Et en fait, c'est plus court si on le veut. Donc je ne vais pas nous lire toute la lettre ce matin, mais je voulais qu'on regarde, qu'on saute un petit peu, qu'on regarde des passages clés. Donc on va commencer dans le premier chapitre. Et puis on va faire quelques versets comme ça dans toute la lettre. Alors le livre commence au chapitre 1, au verset 1. « Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu dans ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. » Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante, après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On va sauter au chapitre 2, au verset 3. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. On peut sauter au chapitre 18, au verset 18, pardon, du chapitre 2. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et au chapitre 3, verset 1, « Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. » On va sauter au chapitre 4, verset 1. « Redoutons donc... alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. » Et plus loin dans le chapitre 4, au verset 11, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Au chapitre 6, à partir du verset 19, « Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile. Là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchizédek, est entré pour nous en précurseur. » Ensuite, au chapitre 7, les versets 24 et 25, ou à partir du verset 23, si vous voulez. « De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Au chapitre 8, le verset 1, « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Ensuite, au verset 6 du chapitre 8, « Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. » Au chapitre 9, on va lire le verset 12, « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. » Et plus loin dans le chapitre 9, au verset 22, « Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. » Et plus loin encore, au verset 27, « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. On va regarder encore le chapitre 10, le verset 22 à 25. « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Au verset 39 du chapitre 10, « Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. » Et puis au chapitre 11, verset 1, « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un témoignage favorable. » Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Et puis, au chapitre 12, les versets 1 à 3, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Amen. Vous voyez en quelques versets, avec quelques lectures comme ça, le nombre de versets que vous pouvez entendre dans les milieux chrétiens, on va dire, des encouragements, des versets qui sont utilisés pour démontrer certains points, des versets qui sont utilisés pour encourager, des versets que vous pouvez lire dans les listes de versets à apprendre. On s'aperçoit que la lettre aux Hébreux, parfois, peut-être en la lisant, vous dites « Oh, c'est un peu... je comprends pas, je reconnais pas, c'est un peu bizarre. » Et puis en sautant comme ça, on s'aperçoit que c'est très riche, qu'il y a plein de choses, que chacun de ces versets qu'on vient de lire pourrait passer un dimanche ou plusieurs à étudier rien que chaque verset, tant les implications de certaines de ces choses sont profondes. Il y a plein de choses dans la lettre aux Hébreux. Et l'auteur veut que nous fassions bon accueil à ses paroles. Et encore une fois, ça passe par l'idée de faire un effort, nous, pour venir dedans, pour regarder, pour la lire, pour y réfléchir, pour la méditer, pour l'apprendre. Et on a lu au chapitre 4, verset 12, ce verset parlant de la parole de Dieu, qui est un verset qu'on cite beaucoup dans l'Église, qui dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » Et on pourrait, avec ce verset, l'idée de faire un bon accueil à ces paroles, faire toute une étude, et là aussi, c'est des choses qui peuvent prendre des semaines si on veut vraiment voir tout ce que la Bible dit à propos de la Bible, à propos de la parole de Dieu elle-même. Mais si nous nous retrouvons ici les dimanches matins pour passer du temps ensemble et pour étudier la parole, c'est pas parce que on a juste cette habitude-là ou parce que on ne sait pas quoi faire d'autre ou on n'a pas de meilleures choses à vous proposer. C'est parce que la Bible nous dit que nous devons l'étudier ensemble, que nous devons la lire et la faire nôtre, l'expliquer, nous la partager les uns aux autres, la recevoir, l'entendre. Et ce que nous faisons les dimanches matins, c'est d'essayer d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire et de la regarder et de la considérer comme importante. Si nous croyons vraiment en Dieu et en Jésus et que nous disons, on en a parlé la semaine dernière, si nous disons que nous aimons Jésus, il nous dit alors nous allons garder ses commandements, nous allons obéir à sa parole et nous allons prendre sa parole et nous dire elle est importante et je vais la traiter comme quelque chose d'important et comme quelque chose qui est digne de beaucoup d'attention de ma part et digne de beaucoup d'investissement de ma part. Et en préparant cette étude, encore une fois, quand je dis ces choses, je me dis mais je passe vraiment pas assez de temps dans la parole de Dieu, j'apprends pas assez la parole de Dieu. Et donc, c'est pas un truc que je vous dis à vous et que, dont je m'exclus, mais nous, en tant que famille de Jésus, nous sommes appelés, la Bible nous dit, nous sommes le corps de Christ, et une des choses que nous faisons, ou que nous devons faire, c'est étudier la parole, par nous-mêmes, ensemble, de plein de manières différentes. Et la lettre aux Hébreux, d'une certaine manière, dit, Dieu a parlé. On a vu le premier verset, les premiers trois versets, où il parle du fait que Dieu a parlé dans l'ancien temps par les prophètes, par les pères, et que maintenant il a parlé par Jésus. Et on voit ce verset 4, 12, dans le chapitre 4, verset 12, et on voit à la fin où il nous dit « Faites bon accueil à ces paroles ». Et c'est un petit peu comme si la lettre aux Hébreux nous dit « Vous avez la Bible, vous avez la parole de Dieu, qu'est-ce que vous en faites ?» Et dans la lettre aux Hébreux, il y a cinq passages qui sont un petit peu comme des avertissements. On a l'impression, quand on étudie la lettre, que l'auteur est en train de dire « Jésus est meilleur que ça dans l'Ancien Testament, il est meilleur que il a offert un meilleur sacrifice, etc., etc., etc. » Et puis il y a des moments où on a l'impression qu'il dit, et comme c'est le cas, attention, attention à ça, attention à ça, attention à ça. Il y a cinq passages, et on va les lire ensemble. Et ces cinq passages, on peut, d'une certaine manière, les exprimer comme des avertissements un petit peu par rapport à comment nous faisons accueil et comment nous interagissons avec la parole de Dieu. Alors on va regarder le premier, c'est Hébreux 2, les versets 1 à 4. Et si vous avez été là pour l'étude depuis le début, vous vous souviendrez sans doute de quand Pierre a enseigné par rapport à ça. Et l'idée, c'est ne partez pas à la dérive. Et on pourrait dire, ne partez pas à la dérive en négligeant la parole de Dieu. Lisons. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée, et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Nous voyons donc qu'il dit « Faites attention de ne pas partir à la dérive par négligence, mais par négligence du message, par négligence de ce qui a été annoncé, la parole de Dieu. » Négliger, c'est l'attitude de quelqu'un qui fait les choses de manière insuffisante, qui ne donne pas assez de soins, pas assez d'attention, avec une certaine légèreté, là où il devrait y avoir un sérieux et une attention plus grande. La négligence, un des synonymes, c'est le laisser aller ou l'inattention. Et le contraire, ce serait la rigueur ou l'application, le soin. C'est l'idée que nous venons à la parole de Dieu avec attention, avec le soin qui est nécessaire, avec la rigueur nécessaire, avec le sérieux nécessaire. Et donc, il nous met en garde de ne pas partir à la dérive en négligeant sa parole. Ensuite, le deuxième avertissement, c'est au chapitre 3, les versets 7 à 19. Et il parle d'incrédulité. Et l'idée, c'est de ne pas mettre en doute la parole de Dieu par incrédulité, de dire ce que j'ai entendu, je n'y crois pas. Lisons à partir du verset 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. » Qui s'est en effet révolté après avoir entendu ? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans ? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert ? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Et on voit que c'est l'idée, ils entendent sa voix. Nous, une grande partie de ce que nous entendons de Dieu, dans Romains 10, 17, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que nous croyons, ce que nous connaissons de Dieu, notre compréhension de Jésus et de Dieu vient en majeure partie et doit venir en majeure partie de la Bible. Et notre foi et ce que nous croyons vient de la Bible. Et si nous ne faisons pas confiance à Dieu, si nous ne croyons pas à Dieu, c'est parce que nous ne croyons pas, nous mettons en doute la parole de Dieu. Et dans ce passage, il nous avertit de ne pas faire ça, de croire ce qui est marqué dans la parole de Dieu et de nous encourager les uns les autres le plus possible pour croire ce que nous avons entendu. On va regarder le troisième avertissement qui est au chapitre 5. Verset 11. Et ici, il va mettre en garde contre ceux qui ne grandissent pas dans leur relation avec Dieu, dans leur foi, qui ne mûrissent pas parce qu'ils sont insensibles à la parole de Dieu, parce qu'ils ne répondent pas à la parole de Dieu quand ils l'entendent, ils ne changent pas leur comportement quand ils l'entendent, et à cause de ça, ils ne grandissent pas dans leur foi. Au verset 11 du chapitre 5, lisons, « Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom, par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » Et donc on voit, au verset 7 du chapitre 6, « Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. » Et il y a d'autres passages qui parlent de la parole de Dieu comme d'une pluie qui vient arroser nos cœurs, qui vient produire une croissance dans nos vies quand nous y sommes sensibles, quand elle vient dans nos vies, que nous la lisons avec intérêt, que nous y obéissons et que nous l'acceptons vraiment dans nos vies pour qu'elle fasse ce qu'elle doit faire. Il y a quelque temps, j'avais enseigné et il y avait un passage où il parlait du fait que les croyants hébreux étaient persécutés, et il disait quand vous êtes comme ça, nous prions pour vous, mais n'oubliez pas aussi de prier pour ceux qui sont dans une condition similaire. Et j'avais parlé du fait que pour ma part, j'avais l'impression que Dieu voulait que je fasse un effort pour essayer de soutenir d'une manière ou d'une autre des croyants dans un pays persécuté. Et j'avais laissé un petit peu couler. Et j'avais pas obéi à la parole, à ce que j'avais cru entendre de la part de Dieu en préparant cette étude. Et le Seigneur m'a repris récemment en préparant ces études. Donc j'ai commencé à faire un petit peu des efforts finalement avec lenteur pour contacter des gens que je connais, qui ont des contacts dans des pays comme l'Irak ou la Syrie, qui savent un petit peu mieux ce qui s'y passe et qui ont des liens directs. Et je leur ai écrit cette semaine en disant je pense que Dieu veut que j'essaye de soutenir quelqu'un ou soutenir un ministère d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça, quand je dis que nous devons réagir proprement à la parole de Dieu, c'est si un dimanche matin vous avez l'impression que Dieu vous dit quelque chose, si quand Pierre parle, quand je parle, quand quelqu'un d'autre parle dans une autre église ou par peut-être un enseignement que vous écoutez à un autre moment, si vous avez l'impression que Dieu vous dit « Ah, ça doit changer », quelle que soit la chose, et que vous dites « Ah ouais, c'est puissant, Seigneur. Wow. » Mais que vous partez à la maison et que ça passe aux oubliettes, c'est ça, ne pas être sensible à la parole de Dieu et ne pas croître. C'est quand nous faisons ça. Si ce matin vous vous dites « Ah ouais, je devrais étudier plus la parole de Dieu », je devrais peut-être essayer de temps en temps d'apprendre un verset par-ci, par-là, ou peut-être lire un petit peu plus. Et que si nous repartons et que nous ne faisons pas ces choses, nous sommes insensibles à la parole de Dieu et nous ne croissons pas. Et nous devons nous encourager les uns les autres à être sensibles à ces choses et à y obéir. Nous devons grandir en maturité spirituelle. On voit qu'il dit « nous devrions être capables d'enseigner aux autres ». Est-ce que vous pensez, vous, être capable d'enseigner les autres ? C'est ça l'objectif. L'objectif dans l'Église, ce n'est pas venir et que quelqu'un d'autre vous enseigne toute votre vie. L'objectif dans la Bible, c'est que dans la famille de Dieu, tout le monde croisse et qu'à un moment, les gens puissent tous enseigner les autres. Ce n'est pas juste quelque chose de réservé. Il y a peut-être des personnes qui ont des dons, qui sont plus à l'aise pour parler devant, peut-être que vous avez le trac, peut-être que vous exprimez pas bien, mais ça veut, Dieu nous dit, est-ce que vous êtes capable d'enseigner les autres ? Au bout d'un certain temps, ça devrait être le cas. Et donc on doit s'encourager aussi là-dedans à grandir et avoir cet objectif, est-ce que nous pouvons enseigner aux autres ? Peut-être qu'une bonne opportunité c'est dans l'idée de se préparer à enseigner aux autres, c'est une opportunité incroyable que nous avons pour commencer et pour pouvoir faire ça d'une manière peut-être un peu moins stressante ou d'une manière où c'est un petit peu prémâché, c'est d'enseigner à l'école du dimanche. C'est de préparer, d'expliquer de simples vérités aux enfants, c'est ça aussi d'enseigner aux autres et de grandir et de devenir plus mature dans notre foi et de grandir dans la parole de Dieu. On va regarder le quatrième avertissement dans Hébreux 10, les versets 26 à 31. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou de trois témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de la grâce ? Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance et c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple. » Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Le fait de pécher délibérément ou de pécher volontairement, c'est l'idée de y a un mépris pour la parole de Dieu. Et donc, c'est en quelque sorte, ne méprisez pas la parole de Dieu en péchant délibérément. On a des instructions simples. Si la Bible nous dit une chose et qu'on dit, oui, mais moi, je veux pas, je vais faire autre chose, c'est un mépris pour la parole de Dieu qui nous est annoncée. Et nous devons faire attention à ça. Ces passages, on voit qu'il y a un, on en a parlé dans les études plus en détail, mais il y a toujours une idée que ça peut conduire jusqu'à un certain niveau à ce qu'on rejette notre salut et qu'on il y a vraiment un danger d'aller jusqu'à un certain point où il y a un grand danger et les mots qui sont utilisés c'est pas des choses imagées pour faire un tableau. C'est des choses qui sont là pour nous faire peur. C'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. C'est à moi qu'appartient la vengeance. Il va donner à chacun ce qu'il mérite. Et la citation dans l'Ancien Testament que sur la déposition de deux ou trois témoins, quelqu'un qui méprise de manière volontaire l'ancienne alliance doit être mis à mort. Ça montre la manière dont Dieu accorde de l'importance à ses paroles. Et il ne le fait pas par despotisme ou par simple « j'ai dit que » et donc vous devez faire, mais c'est parce qu'il, encore une fois, il nous a donné les instructions parce qu'il sait comment nous sommes faits et il sait ce qui est le mieux pour notre vie et il veut que nous obéissions à sa parole. Hébreux 12, des versets 25 à 29, c'est le dernier avertissement. Donc à partir du verset 25, « Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas rééchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel ? Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse. Une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Les mots « une fois encore » indiquent bien que les choses qui appartenant au monde créé peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Et celui qui parle, c'est pas moi ou Pierre ou un tel qui arrive et qui dit pour que vous m'écoutiez là. Ne refusez pas d'écouter celui qui me parle. Non, c'est Dieu qui vous parle par son Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Alors ça peut être à travers quelqu'un qui vous enseigne à l'église, mais ça peut être vous en lisant, ça peut être un frère, une sœur qui vous dit quelque chose, qui vous cite la parole de Dieu. Et c'est d'être indifférent à la parole de Dieu et d'y désobéir. Il y a un commentateur, Warren Wiersbe, qui a écrit en anglais des commentaires sur la Bible, et qui fait un lien entre ces avertissements, ces dangers, avec une sorte d'idée de progression, des points un petit peu de sévérité. Et il dit, si nous négligeons la parole de Dieu, en n'y prêtant pas attention, alors nous commençons à partir à la dérive. La négligence conduit toujours à la dérive, aussi bien dans le domaine matériel et physique que dans le domaine spirituel. En nous éloignant lentement de la parole de Dieu, nous commençons à douter d'elle, car la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. C'est le verset dans Romains 10, 17. Nous commençons à endurcir nos cœurs et ceci conduit à une paresse spirituelle qui nous rend progressivement insensibles à la parole de Dieu. Nous devenons durs d'oreille, des auditeurs paresseux. Ceci conduit à une attitude de mépris envers la parole de Dieu, au point de désobéir à Dieu de façon délibérée. Cette attitude se transforme graduellement en une attitude de défiance vis-à-vis de Dieu. C'est comme si nous mettions Dieu au défi de faire quelque chose. Que fait Dieu pendant ce temps de régression spirituelle ? Il continue de nous parler, de nous encourager à revenir à la parole. Si nous ne l'écoutons pas, alors il commence à nous corriger. Ce processus de correction est le thème de Hébreux 12 que nous avons étudié. Dieu ne laisse pas ses enfants devenir des sales gosses gâtés, entre guillemets, en les laissant défier la parole de Dieu délibérément. Il corrige toujours avec amour. Et je trouve que ça résume de manière très, très bonne tout ce que nous avons regardé dans ces avertissements. Et on pourrait finir sur cette note, mais je pense qu'il est meilleur de finir sur une note positive et de voir quels sont les remèdes et quelles sont les choses que la Bible nous dit que nous devons faire par rapport à la Bible, quels sont les éléments, comment pouvons-nous réagir de manière positive. On peut dire « Ouh là là, il faut que je fasse attention ». C'est mieux de dire « Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ces choses ?» Et on va, là aussi, on pourrait faire toute une étude, il y a des versets qu'on pourrait citer, mais je vais juste lister sept choses que la Bible nous dit de faire par rapport à elle-même. La première, c'est d'écouter, d'entendre ou d'écouter, d'écouter le dimanche matin, peut-être d'écouter la parole de Dieu lue, des Bibles audio ou en la lisant. Le deuxième point, c'est de la lire. C'est un petit peu peut-être plus actif que le simple fait d'écouter. Le troisième point, c'est d'étudier. C'est de passer plus de temps, c'est pas juste de la lire vite fait, mais c'est comme je vous expliquais, de remarquer peut-être des contrastes, de noter, ah tiens, il utilise tel mot plusieurs fois, qu'est-ce que ce mot-là veut dire, je vais aller regarder dans un dictionnaire en ligne, je comprends pas ce passage, c'est d'étudier. Pour certains d'entre nous, les études sont à des années-lumière derrière nous et on a oublié comment faire. La Bible nous dit que nous devons étudier la Bible. Le quatrième point, c'est de mémoriser la Bible. C'est clair et la Bible nous le dit, nous devons la mémoriser, la prendre par cœur, l'intégrer dans nos vies, pouvoir citer des versets. C'est de méditer la parole de Dieu, c'est d'avoir ces versets que nous avons appris et d'y réfléchir et de cogiter dessus, de passer du temps à réfléchir à qu'est-ce que ce verset implique, comment ça m'affecte, est-ce qu'il y a des choses que j'avais pas vues, est-ce que ça s'applique en posant des questions par rapport au verset, il y a plein de choses qu'on peut faire pour méditer vraiment pour réfléchir peut-être de manière plus concentrée sur des petits passages où on essaie de vraiment tirer plus qu'une simple étude qui est peut-être un peu plus large. Ensuite, il y a l'idée d'annoncer la parole. Dans Romains 10, 15, il est dit, comment est-ce que les gens vont entendre l'évangile, la bonne nouvelle, si quelqu'un ne l'annonce pas? Nous sommes appelés à l'annoncer, la parole de Dieu. Et puis le dernier point, c'est l'idée d'appliquer et d'obéir à la parole de Dieu. Et là aussi, on a fait mention à ça un petit peu la semaine dernière avec des citations dans Matthieu 7, et dans Jacques 1, et l'idée que Jésus nous dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, vous allez obéir, vous allez appliquer ce que je vous dis. Et donc l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, faites bon accueil à ces paroles. Et ce matin, on a élargi, faisons bon accueil ensemble à la parole de Dieu. Encourageons-nous les uns les autres à faire ces choses, ces sept choses que nous avons vues. Et on peut être honnête les uns avec les autres. C'est en tant que famille de Christ, il faut que nous ayons la liberté de dire les choses avec lesquelles nous luttons. N'ayez pas honte si vous entre guillemets, vous n'en avez rien à faire quand vous lisez la Bible. Priez, demandez aux autres de prier pour que vous ayez plus d'envie. Plus d'intérêt à lire la parole de Dieu, à faire ces choses, à l'étudier. On peut être honnête les uns avec les autres. Il y a des moments où, quand je lis la parole de Dieu, où j'y fais pas attention, où je suis pas intéressé, où j'en tire rien, où je fais simplement par pauvre habitude. Et entre guillemets, c'est dans le meilleur des cas. Il y a bien des jours où je ne lis pas la parole de Dieu et je dois grandir, nous devons grandir et nous devons prier pour que Dieu nous donne plus envie pour sa parole et que nous ne tombions pas dans ces choses et que nous grandissions ensemble. Alors on va prier et priez-vous dans vos cœurs à Dieu, dites Dieu, pardonne-moi, j'ai pas assez envie. Donne-moi plus envie, fais-moi grandir. On va prier. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vivante et efficace, parce qu'il y a une réalité spirituelle, parce que c'est toi, c'est ta puissance, toi qui as créé l'univers. Tu accordes à ta parole une puissance spirituelle dont on n'a pas compréhension, Seigneur, on ne saisit pas. Et Seigneur, on a vu ces avertissements ce matin, et je veux venir à toi et te demander de me donner plus envie de ta parole, Seigneur. De me faire grandir, Seigneur, dans ta parole, de faire ces choses que nous avons vues, d'écouter, de lire, d'étudier, de mémoriser, de méditer, d'annoncer, Seigneur, et d'appliquer, d'obéir à ta parole. Seigneur, je te demande pardon parce que je ne fais pas assez. Et Seigneur, je te demande de changer mon cœur, Seigneur, de me faire grandir dans ces choses et de nous faire grandir. Nous sommes ta famille, Seigneur. Nous nous appelons chrétiens et tu nous dis que si nous t'aimons vraiment, nous allons garder tes commandements, nous allons y accorder de l'importance, Seigneur. Fais-nous tous grandir, Seigneur, dans cette chose, dans ta parole. Seigneur, on voit que notre foi vient aussi de ce que nous entendons, de ta parole. Si nous manquons de foi, Seigneur, si nous ne croyons pas en toi, si nous ne croyons pas que tu peux résoudre certaines choses dans nos vies ou changer certaines choses dans nos vies, Seigneur, fais grandir notre foi par notre plus grand désir et notre plus grande exposition à ta parole. Seigneur, nous reconnaissons aisément que nous avons besoin de toi, que nous avons plus besoin de toi, et tu nous donnes ta parole, tu nous dis voilà déjà un outil puissant et incroyable pour grandir, pour nous changer, Seigneur. Et je te demande de nous faire grandir en toi, de nous faire grandir dans cette envie, Seigneur. Que ce soit quelque chose de naturel pour nous, de dire oui, nous sommes ton peuple et ta parole est une des choses les plus importantes à laquelle nous pouvons consacrer notre temps. Sois glorifié, Seigneur. Aide-nous à chacun, suivant comment tu nous as parlé ce matin, à ne pas être insensible, mais à cette semaine, dès que possible, à nous dire je vais changer, Seigneur, je vais essayer d'obéir, je vais répondre à ce que tu m'as dit, à comment tu m'as parlé. Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas comme de sales gosses gâtés, que tu corriges pas, Seigneur, mais tu nous corriges, tu nous reprends, tu nous parles par ta parole, par ton Esprit Saint, parce que tu veux que nous grandissions, Seigneur. Tu veux que nous devenions plus comme toi. Tu veux que nos vies soient plus pleines et riches en toi. Et c'est pour ça que tu nous parles, Seigneur, c'est par amour. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu nous dis. Sois glorifié, sois élevé parmi nous. En ton nom, nous prions. Amen.